Ce fut une petite fête de famille que le retour de Marguerite. Le notaire et M. de Solis avaient été invités à dîner, par Félicie et par Balthazar. Quand la voiture de voyage s'arrêta devant la porte de la maison, ces quatre personnes vinrent y recevoir les voyageurs, avec de grandes démonstrations de joie. Marguerite parut heureuse de revoir les foyers paternels. Ses yeux s'emplirent de larmes quand elle traversa la cour pour arriver au parloir. En embrassant son père, ses caresses de jeune fille ne furent pas néanmoins sans arrière-pensée. Elle rougissait comme une épouse coupable, qui ne sait pas feindre. Mais ses regards reprirent leur pureté quand elle regarda M. de Solis, en qui elle semblait puiser la force d'achever l'entreprise qu'elle avait secrètement formée. Pendant le dîner, malgré l'allégresse qui animait les physionomies et les paroles, le père et la fille s'examinèrent avec défiance et curiosité. Balthazar ne fit à Marguerite aucune question sur son séjour à Paris, sans doute par dignité paternelle. Emmanuel de Solis imita cette réserve. Mais Pierre Quint, qui était habitué à connaître tous les secrets de famille, dit à Marguerite, en couvrant sa curiosité sous une fausse bonhomie, « Eh bien, chère cousine, vous avez vu Paris, les spectacles ?»«
Je n'ai rien vu à Paris, » répondit-elle. « Je n'y suis pas allée pour me divertir. Les jours s'y sont tristement écoulés pour moi. J'étais trop impatiente de revoir Douai. Si je ne m'étais pas fâchée, elle ne serait pas venue à l'opéra, ou d'ailleurs elle s'est ennuyée, » dit M. Coninx.
La soirée fut pénible. Chacun était gêné, souriait mal, ou s'efforçait de témoigner cette gaieté de commande sous laquelle se cachent de réelles anxiétés. Marguerite et Balthazar étaient en proie à de sourdes et cruelles appréhensions qui réagissaient sur les cœurs. Plus la soirée s'avançait, plus la contenance du père et de la fille s'altérait. Parfois Marguerite essayait de sourire, mais ses gestes, ses regards, le son de sa voix trahissaient une vive inquiétude. Messieurs Coninx et de Solis semblaient connaître la cause des secrets mouvements qui agitaient cette noble fille et paraissaient l'encourager par des œillades expressives. Blessé d'avoir été mis en dehors d'une résolution et de démarches accomplies pour lui, Balthazar se séparait insensiblement de ses enfants et de ses amis, en affectant de garder le silence. Marguerite allait sans doute lui découvrir ce qu'elle avait décidé de lui. Pour un grand homme, pour un père, cette situation était intolérable. Parvenu à un âge où l'on ne dissimule rien au milieu de ses enfants, où l'étendue des idées donne de la force aux sentiments, il devenait donc de plus en plus grave, songeur et chagrin, en voyant s'approcher le moment de sa mort civile. Cette soirée renfermait une de ces crises de la vie intérieure qui ne peuvent s'expliquer que par des images. Les nuages et la foudre s'amoncelaient au ciel. L'on riait dans la campagne. Chacun avait chaud, sentait l'orage, levait la tête et continuait sa course. Monsieur Coninx, le premier, alla se coucher et fut conduit à sa chambre par Balthazar. Pendant son absence, Pierre Quint et Monsieur de Solis s'en allèrent. Marguerite fit un adieu plein d'affection au notaire. Elle ne dit rien à Emmanuel, mais elle lui pressa la main en lui jetant un regard humide. Elle renvoya Félicie, et quand Claès revint au parloir, il y trouva sa fille seule. « Mon bon père, lui dit-elle d'une voix tremblante, il a fallu les circonstances graves où nous sommes pour me faire quitter la maison. Mais après bien des angoisses, et après avoir surmonté des difficultés inouïes, j'y reviens avec quelques chances de salut pour nous tous. Grâce à votre nom, à l'influence de notre oncle et aux protections de M. de Solis, nous avons obtenu pour vous une place de receveur des finances. En Bretagne, elle vaut, dit-on, 18 à 20 000 francs par an. Notre oncle a fait le cautionnement. Voici votre nomination, dit-elle en tirant une lettre de son sac. Votre séjour ici, pendant nos années de privations et de sacrifices, serait intolérable. Notre père doit rester dans une situation au moins égale à celle où il a toujours vécu. Je ne vous demanderai rien sur vos revenus. Vous les emploierez comme bon vous semblera. Je vous supplie seulement de songer que nous n'avons pas un sou de rente,
et que nous vivrons tous avec ce que Gustave nous donnera sur ses revenus. La ville ne saura rien de cette vie claustrale. Si vous étiez chez vous, vous seriez un obstacle aux moyens que nous emploierons, ma sœur et moi, pour tâcher d'y rétablir l'aisance. Est-ce abuser de l'autorité que vous m'avez donnée que de vous mettre dans une position à refaire vous-même votre fortune? Dans quelques années, si vous le voulez, vous serez receveur général. Ainsi, Marguerite, dit doucement Balthazar, tu me chasses de ma maison. Je ne mérite pas un reproche si dur, répondit la fille en comprimant les mouvements tumultueux de son cœur. Vous reviendrez parmi nous lorsque vous pourrez habiter votre ville natale, comme il vous convient d'y paraître. D'ailleurs, mon père, n'ai-je point votre parole ? Reprit-elle froidement. Vous devez m'obéir. Mon oncle est resté pour vous emmener en Bretagne, afin que vous ne fissiez pas seul le voyage. Je n'irai pas, s'écria Balthazar en se levant. Je n'ai besoin du secours de personne pour rétablir ma fortune et payer ce que je dois à mes enfants. Ce sera mieux, reprit Marguerite sans s'émouvoir. Je vous prierai de réfléchir à notre situation respective, que je vais vous expliquer en peu de mots. Si vous restez dans cette maison, vos enfants en sortiront afin de vous en laisser le maître. Marguerite, cria Balthazar. Puis, dit-elle en continuant sans vouloir remarquer l'irritation de son père, il faut instruire le ministre de votre refus, si vous n'acceptez pas une place lucrative et honorable, que malgré nos démarches et nos protections, nous n'aurions pas eu sans quelques billets de 1000 francs, adroitement mis par mon oncle dans le gant d'une dame. Me quitter? Ou vous nous quitterez? Ou nous vous fuirons? Dit-elle. Si j'étais votre seul enfant, j'imiterais ma mère, sans murmurer contre le sort que vous me feriez. Mais ma sœur et mes deux frères ne périront pas de faim ou de désespoir auprès de vous. Je l'ai promis à celle qui mourut là, dit-elle en montrant la place du lit de sa mère. Nous avons caché nos douleurs, nous avons souffert en silence. Aujourd'hui, nos forces se sont usées. Nous ne sommes pas au bord d'un abîme. Nous sommes au fond, mon père. Il faut encore que nos efforts ne soient pas incessamment déjoués par les caprices d'une passion. Mes chers enfants, s'écria Balthazar en saisissant la main de Marguerite. Je vous aiderai, je travaillerai, je... En voici les moyens, répondit-elle en lui tendant la lettre ministérielle. Mais, mon ange, le moyen que tu m'offres pour refaire ma fortune est trop lent. Tu me fais perdre le fruit de 10 années de travaux, et les sommes énormes que représente mon laboratoire. Là, dit-il en indiquant le grenier, sont toutes nos ressources. Marguerite marcha vers la porte en disant, « Mon père, vous choisirez. »« Ah, ma fille, vous êtes bien dure, » répondit-il en s'asseyant dans un fauteuil et la laissant partir. Le lendemain matin, Marguerite apprit par le muletinier que M. Claës était sorti. Cette simple annonce la fit pâlir, et sa contenance fut si cruellement significative que le vieux valet lui dit « Soyez tranquille, mademoiselle. Monsieur a dit qu'il serait revenu à 11 heures pour déjeuner. Il ne s'est pas couché. À 2 heures du matin, il était encore debout dans le parloir, à regarder par les fenêtres les toits du laboratoire. J'attendais dans la cuisine. Je le voyais, il pleurait. Il a du chagrin. Voici ce fameux mois de juillet, pendant lequel le soleil est capable de nous enrichir tous. Et si vous vouliez... Assez, dit Marguerite en devinant toutes les pensées qui avaient dû assaillir son père. Il s'était en effet accompli chez Balthazar ce phénomène qui s'empare de toutes les personnes sédentaires. Sa vie dépendait pour ainsi dire des lieux avec lesquels il s'était identifié. Sa pensée mariée à son laboratoire et à sa maison les lui rendait indispensables, comme l'est la bourse aux joueurs, pour qui les jours fériés sont des jours perdus. Là étaient ses espérances. Là descendait du ciel la seule atmosphère où ses poumons pouvaient puiser l'air vital. Cette alliance des lieux et des choses entre les hommes, si puissante chez les natures faibles, devient presque tyrannique chez les gens de science et d'études. Quitter sa maison, c'était pour Balthazar renoncer à la science, à son problème. C'était mourir. Marguerite fut en proie à une extrême agitation jusqu'au moment du déjeuner. La scène qui avait porté Balthazar à vouloir se tuer lui était revenue à la mémoire, et elle craignit de voir se dénouer tragiquement la situation désespérée où se trouvait son père. Elle allait et venait dans le parloir, en tressaillant chaque fois que la sonnette de la porte retentissait. Enfin, Balthazar revint. Pendant qu'il traversait la cour, Marguerite, qui étudia sa figure avec inquiétude, n'y vit que l'expression d'une douleur orageuse. Quand il entra dans le parloir, elle s'avança vers lui pour lui souhaiter le bonjour. Il la saisit affectueusement par la taille, la baisa au front et lui dit à l'oreille « Je suis allé demander mon passeport. » Le son de la voix, le regard résigné, le mouvement de son père, tout écrasa le cœur de la pauvre fille qui détourna la tête pour ne point laisser voir ses larmes. Mais ne pouvant les réprimer, elle alla dans le jardin et revint après y avoir pleuré à son aise. Pendant le déjeuner, Balthazar se montra gai comme un homme qui avait pris son parti. « Nous allons donc partir pour la Bretagne, mon oncle, » dit-il à Monsieur Coninx. « J'ai toujours eu le désir de voir ce pays-là. On y vit à bon marché, » répondit le vieil oncle. « Mon père nous quitte ?» s'écria Félicie. Monsieur de Solis entra, il amenait Jean. « Vous nous le laisserez aujourd'hui, » dit Balthazar en mettant son fils près de lui. « Je pars demain, et je veux lui dire adieu. » Emmanuel regarda Marguerite qui baissa la tête. Ce fut une journée morne, pendant laquelle chacun fut triste et réprima des pensées ou des pleurs. Ce n'était pas une absence, mais un exil. Puis, tous sentaient instinctivement ce qu'il y avait d'humiliant pour un père à déclarer ainsi publiquement ses désastres, en acceptant une place et en quittant sa famille, à l'âge de Balthazar. Lui seul fut aussi grand que Marguerite était ferme, et parut accepter noblement cette pénitence des fautes que l'emportement du génie lui avait fait commettre. Quand la soirée fut passée et que le père et la fille furent seuls, Balthazar, qui pendant toute la journée s'était montré tendre et affectueux, comme il l'était durant les beaux jours de sa vie patriarcale, tendit la main à Marguerite et lui dit avec une sorte de tendresse mêlée de désespoir « Es-tu contente de ton père ? Vous êtes digne de celui-là » répondit Marguerite en lui montrant le portrait de Van Claes. Le lendemain matin, Balthazar, suivi de Le Mulquinier, monta dans son laboratoire, comme pour faire ses adieux aux espérances qu'il avait caressées, et que ses opérations commencées lui représentaient vivantes. Le maître et le valet se jetèrent un regard plein de mélancolie, en entrant dans le grenier qu'ils allaient quitter peut-être pour toujours. Balthazar contempla ces machines, sur lesquelles sa pensée avait si longtemps plané, et dont chacune était liée au souvenir d'une recherche ou d'une expérience. Il ordonna d'un air triste à Le Mulquinier de faire évaporer des gaz ou des acides dangereux, de séparer des substances qui auraient pu produire des explosions. Tout en prenant ses soins, il proférait des regrets amers, comme on exprime un condamné à mort, avant d'aller à l'échafaud. « Voici pourtant, » dit-il en s'arrêtant devant une capsule, dans laquelle plongeaient les deux fils d'une pile de volta, une expérience dont le résultat devrait être attendu. Si elle réussissait, affreuse pensée, mes enfants ne chasseraient pas de sa maison un père qui jetterait des diamants à leurs pieds. Voilà une combinaison de carbone et de soufre, ajouta-t-il en se parlant à lui-même, dans laquelle le carbone joue le rôle de corps électropositif, et dans le cas de décomposition, le carbone s'y porterait cristallisé. « Ah, ça se ferait comme ça !» dit Le Mulquinier en contemplant son maître avec admiration. « Or, » reprit Balthazar après une pause, « la combinaison est soumise à l'influence de cette pile qui peut agir. Si monsieur veut, je vais en augmenter l'effet. Non, non, il faut la laisser telle qu'elle est. Le repos et le temps sont des conditions essentielles à la cristallisation. Parbleu, faut qu'elle prenne son temps, cette cristallisation !» s'écria le valet de chambre. Si la température baisse, le sulfure de carbone se cristallisera, dit Balthazar en continuant d'exprimer par lambeaux les pensées indistinctes d'une méditation complète dans son entendement. Mais si l'action de la pile opère dans certaines conditions que j'ignore, il faudrait surveiller cela. Il est possible, mais à quoi pensais-je? Il ne s'agit plus de chimie, mon ami. Nous devons aller gérer une recette en Bretagne. Claes sortit précipitamment et descendit pour faire un dernier déjeuner de famille auquel assistèrent Pierre Quint et Monsieur de Solis. Balthazar, pressé d'en finir avec son agonie scientifique, dit adieu à ses enfants et monta en voiture avec son oncle. Toute la famille l'accompagna sur le seuil de la porte. Là, quand Marguerite eut embrassé son père par une étreinte désespérée, à laquelle il répondit en lui disant à l'oreille « Tu es une bonne fille et je ne t'en voudrai jamais », elle franchit la cour, se sauva dans le parloir, s'agenouilla à la place où sa mère était morte et fit une ardente prière à Dieu pour lui demander la force d'accomplir les rudes travaux de sa nouvelle vie. Elle était déjà fortifiée par une voix intérieure qui lui avait jeté dans le cœur les applaudissements des anges et les remerciements de sa mère. Quand sa sœur, son frère Emmanuel et Pierre Quint rentrèrent après avoir regardé la calèche, jusqu'à ce qu'ils ne la vissent plus. « Maintenant, mademoiselle, qu'allez-vous faire ?» lui dit Pierre Quint. « Sauvez la maison, » répondit-elle avec simplicité. « Nous possédons près de 1300 arpents à Vénier. Mon intention est de les faire défricher, les partager en 3 fermes, construire les bâtiments nécessaires à leur exploitation, les louer, et je crois qu'en quelques années, avec beaucoup d'économie et de patience, chacun de nous, dit-elle en montrant sa sœur et son frère, aura une ferme de 400 et quelques arpents qui pourra valoir, un jour, près de 15 000 francs de rente. Mon frère Gustave gardera pour sa part cette maison et ce qu'il possède sur le grand livre, puis nous rendrons un jour à notre père sa fortune dégagée de toute obligation en consacrant nos revenus à l'acquittement de ses dettes. Mais, chère cousine, dit le notaire stupéfait de cette entente des affaires et de la froide raison de Marguerite, il vous faut plus de 200 000 francs pour défricher vos terrains, bâtir vos fermes et acheter des bestiaux. Où prendrez-vous cette somme ? Là commencent les embarras, dit-elle en regardant alternativement le notaire et M. de Solis. Je n'ose pas les demander à mon oncle, qui a déjà fait le cautionnement de mon père. Vous avez des amis ? S'écria Pierre Quint en voyant tout à coup que les demoiselles Claës seraient encore des filles de 500 000 francs. Emmanuel de Solis regarda Marguerite avec attendrissement. Mais malheureusement pour lui, Pierre Quint resta notaire au milieu de son enthousiasme et reprit ainsi « Moi, je vous les offre, ces 200 000 francs. » Emmanuel et Marguerite se consultèrent par un regard qui fut un trait de lumière pour Pierre Quint. Félicie rougit excessivement, tant elle était heureuse de trouver son cousin aussi généreux qu'elle le souhaitait. Elle regarda sa sœur, qui, tout à coup, devina que pendant l'absence qu'elle avait faite, la pauvre fille s'était laissée prendre à quelques banales galanteries de Pierre Quint. « Vous ne me paierez que 5% d'intérêt, » dit-il. « Vous me rembourserez quand vous voudrez, et vous me donnerez une hypothèque sur vos terrains. Mais soyez tranquille, vous n'aurez que les déboursés à payer pour tous vos contrats. Je vous trouverai de bons fermiers, et ferai vos affaires gratuitement afin de vous aider, en bons parents. » Emmanuel fit un signe à Marguerite pour l'engager à refuser, mais elle était trop occupée à étudier les changements qui nuançaient la physionomie de sa sœur pour s'en apercevoir. Après une pause, elle regarda le notaire d'un air ironique et lui dit d'elle-même, à la grande joie de M. de Solis, « Vous êtes un bien bon parent, je n'attendais pas moins de vous, mais l'intérêt à 5% retarderait trop notre libération. J'attendrai la majorité de mon frère, et nous vendrons ses rentes. » Pierre Quint se mordit les lèvres, Emmanuel se mit à sourire doucement. « Félicie, ma chère enfant, reconduis Jean au collège. » « Martha raccompagnera, » dit Marguerite en montrant son frère. « Jean, mon ange, sois bien sage. Ne déchire pas tes habits. Nous ne sommes pas assez riches pour te les renouveler aussi souvent que nous le faisions. Allons, va, mon petit, et tu dis bien. » Félicie sortit avec son frère. « Mon cousin, » dit Marguerite à Pierre Quint, « et vous, monsieur, » dit-elle à monsieur de Solis, « vous êtes sans doute venu voir mon père pendant son absence. Je vous remercie de ces preuves d'amitié. Vous ne ferez sans doute pas moins pour de pauvres filles qui vont avoir besoin de conseils. Entendons-nous à ce sujet. Quand je serai en ville, je vous recevrai toujours avec le plus grand plaisir. Mais quand Félicie sera seule ici avec Josette et Martha, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle ne doit voir personne, fût-ce un vieil ami et le plus dévoué de nos parents. Dans les circonstances où nous nous trouvons, notre conduite doit être d'une irréprochable sévérité. Nous voici donc pour longtemps voués au travail et à la solitude. Le silence régna pendant quelques instants. Emmanuel, abîmé dans la contemplation de la tête de Marguerite, semblait muet. Pierrequin ne savait que dire. Le notaire prit congé de sa cousine, en éprouvant un mouvement de rage contre lui-même. Il avait deviné tout à coup que Marguerite aimait Emmanuel, et qu'il venait de se conduire en vrai sot. « Ah ça, Pierrequin, mon ami !» se dit-il en s'apostrophant lui-même dans la rue. « Un homme qui te dirait que tu es un grand animal aurait raison. Suis-je bête ? Faire 12 000 livres de rente, en dehors de ma charge, sans compter la succession de mon oncle des Raquets, de qui je suis le seul héritier, et qui me doublera ma fortune un jour ou l'autre. Enfin, je ne lui souhaite pas de mourir. Il est économe. Et j'ai l'infamie de demander des intérêts à Mademoiselle Claës. Je suis sûr qu'à eux deux, ils se moquent maintenant de moi. Je ne dois plus penser à Marguerite. Non. Après tout, Félicie est une douce et bonne petite créature, qui me convient mieux. Marguerite a un caractère de fer. Elle voudrait me dominer. Et elle me dominerait. Allons, montrons-nous généreux. Ne soyons pas tant notaires. Je ne peux donc pas secouer ce harnais-là. Sac à papier. Je vais me mettre à aimer Félicie, et je ne bouge pas de ce sentiment-là. Fourche, elle aura une ferme de 430 arpents, qui, dans un temps donné, vaudra entre 15 000 et 20 000 livres de rente, car les terrains de Vénille sont bons. Que mon oncle des Raquets meure, pauvre bonhomme. Je vends mon étude, et je suis un homme de 50 000 livres de rente. Ma femme est une Claës. Je suis allié à des maisons considérables. Diantre, nous verrons si les Courtevilles, les Magalins, les Savarons de Savarus, refuseront de venir chez un Pierrequin Claës Molina Nouro. Je serai maire de Douai. J'aurai la croix. Je puis être député. J'arrive à tout. À ça, Pierrequin, mon garçon, tiens-toi là. Ne faisons plus de sottises. D'autant que ma parole d'honneur, Félicie, mademoiselle Félicie Van Claës, je t'aime.
Quand les deux amants furent seuls, Emmanuel tendit une main à Marguerite, qui ne put s'empêcher d'y mettre sa main droite. Ils se levèrent par un mouvement unanime, en se dirigeant vers leur banc dans le jardin. Mais au milieu du parloir, l'amant ne put résister à sa joie, et d'une voix que l'émotion rendit tremblante, il dit à Marguerite : « J'ai 300 000 francs à vous. »
« Comment ? S'écria-t-elle. Ma pauvre mère vous aurait encore confié.
Non, quoi ?
Oh, ma Marguerite ! Ce qui est à moi n'est-il pas à vous ? N'est-ce pas vous qui la première avez dit nous ?
Cher Emmanuel, dit-elle en pressant la main qu'elle tenait toujours. Et au lieu d'aller au jardin, elle se jeta dans la bergère. N'est-ce pas à moi de vous remercier ? Dit-il avec sa voix d'amour, puisque vous acceptez. Ce moment, dit-elle, efface bien des douleurs et rapproche un heureux avenir. Oui, j'accepte ta fortune. Reprit-elle en laissant errer sur ses lèvres un sourire d'ange. Je sais le moyen de la faire mienne. Elle regarda le portrait de Van Claes comme pour avoir un témoin. Le jeune homme qui suivait les regards de Marguerite ne lui vit pas tirer de son doigt une bague de jeune fille et ne s'aperçut de ce geste qu'au moment où il entendit ces paroles. Au milieu de nos profondes misères, il surgit un bonheur. Mon père me laisse, par insouciance, la libre disposition de moi-même, dit-elle en tendant la bague. Prends, Emmanuel, ma mère te chérissait, elle t'aurait choisi. Les larmes vinrent aux yeux d'Emmanuel, il pâlit, tomba sur ses genoux, et dit à Marguerite en lui donnant un anneau qu'il portait toujours, voici l'alliance de ma mère. Ma Marguerite, reprit-il en baisant la bague, n'aurais-je donc d'autre gage que ceci ? Elle se baissa pour apporter son front aux lèvres d'Emmanuel. « Hélas, mon pauvre aimé, ne faisons-nous pas là quelque chose de mal » dit-elle tout émue, « car nous attendrons longtemps. Mon oncle disait que l'adoration était le pain quotidien de la patience. En parlant du chrétien qui aime Dieu, je puis t'aimer ainsi. Je t'ai depuis longtemps, confondu avec le Seigneur de toutes choses. Je suis à toi comme je suis à lui. » Ils restèrent pendant quelques moments en proie à la plus douce exaltation. Ce fut la sincère et calme effusion d'un sentiment qui, semblable à une source trop pleine, débordait par de petites vagues incessantes. Les événements qui séparaient ces deux amants étaient un sujet de mélancolie qui rendit leur bonheur plus vif, en lui donnant quelque chose d'aigu comme la douleur. Félicie revint trop tôt pour eux. Emmanuel,
éclairée par le tact délicieux qui fait tout deviner en amour, laissa les deux sœurs seules, après avoir échangé avec Marguerite, un regard où elle put voir tout ce que lui coûtait cette discrétion, car il y exprima combien il était avide de ce bonheur désiré si longtemps, et qui venait d'être consacré par les fiançailles du cœur. « Viens ici, petite sœur, » dit Marguerite en prenant Félicie par le cou. Puis, la ramenant dans le jardin, elles allèrent s'asseoir sur le banc, auquel chaque génération avait confié ses paroles d'amour, ses soupirs de douleur, ses méditations et ses projets. Malgré le ton joyeux et l'aimable jeunesse du sourire de sa sœur, Félicie éprouvait une émotion qui ressemblait à un mouvement de peur. Marguerite lui prit la main et la sentit trembler. « Mademoiselle Félicie, » dit l'aînée en s'approchant de l'oreille de sa sœur, « je lis dans votre âme. Pierre Quin est venu souvent pendant mon absence. Il est venu tous les soirs. Il vous a dit de douces paroles, et vous les avez écoutées. » Félicie rougit. « Ne t'en défends pas, mon ange, » reprit Marguerite. « Il est si naturel d'aimer. Peut-être ta chère âme changera-t-elle un peu la nature du cousin. Il est égoïste, intéressé, mais c'est un honnête homme, et sans doute ses défauts serviront à ton bonheur. Il t'aimera comme la plus jolie de ses propriétés. Tu feras partie de ses affaires. Pardonne-moi ce mot, cher ami. Tu le corrigeras des mauvaises habitudes qu'il a prises, de ne voir partout que des intérêts, en lui apprenant les affaires du cœur. » Félicie ne put qu'embrasser sa sœur. « D'ailleurs, reprit Marguerite, il a de la fortune. Sa famille est de la plus haute et de la plus ancienne bourgeoisie. Mais serait-ce donc moi qui m'opposerais à ton bonheur, si tu veux le trouver dans une condition médiocre ?» Félicie laissa échapper ces mots. « Chère sœur, oh oui, tu peux te confier à moi !» s'écria Marguerite. « Quoi de plus naturel que de nous dire nos secrets ?» Ce mot plein d'âme détermina l'une de ces causeries délicieuses où les jeunes filles se disent tout. Quand Marguerite, que l'amour avait faite experte, eut reconnu l'état du cœur de Félicie, elle finit en lui disant « Eh bien, ma chère enfant, assurons-nous que le cousin t'aime véritablement, et alors, laisse-moi faire, » répondit Félicie en riant. « J'ai mes modèles. Folle !» dit Marguerite en la baisant au front. Quoique Pierre Quin appartient à cette classe d'hommes qui, dans le mariage, voit des obligations, l'exécution des lois sociales et un mode pour la transmission des propriétés, qu'il lui fût indifférent d'épouser Ophélicie ou Marguerite, si l'une ou l'autre avait le même nom et la même dot, il s'aperçut néanmoins que toutes deux étaient, suivant une de ses expressions, des filles romanesques et sentimentales, deux adjectifs que les gens sans cœur emploient pour se moquer des dons que la nature sème, d'une main parcimonieuse, à travers les sillons de l'humanité. Le notaire se dit sans doute qu'il fallait hurler avec les loups, et le lendemain, il vint voir Marguerite. Il l'emmena mystérieusement dans le petit jardin, et se mit à parler sentiments, puisque c'était une des clauses du contrat primitif qui devait précéder, dans les lois du monde, le contrat notarié. « Chère cousine, lui dit-il, nous n'avons pas toujours été du même avis sur les moyens à prendre pour arriver à la conclusion heureuse de vos affaires. Mais vous devez reconnaître aujourd'hui que j'ai toujours été guidé par un grand désir de vous être utile. Eh bien, hier, j'ai gâté mes offres par une fatale habitude que nous donne l'esprit notaire. Comprenez-vous, mon cœur n'était pas complice de ma sottise. Je vous ai bien aimé, mais nous avons une certaine perspicacité, nous autres. Et je me suis aperçu que je ne vous plaisais pas. C'est ma faute. Un autre a été plus adroit que moi. Eh bien, je viens vous annoncer tout bonifacement que j'éprouve un amour réel pour votre sœur Félicie. Traitez-moi donc comme un frère. Puisez dans ma bourse, prenez à même. Allez, plus vous prendrez, plus vous me prouverez d'amitié. Je suis tout à vous. Sans intérêt, entendez-vous? Ni à 12, ni à 1/4%. Que je sois trouvé digne de Félicie. Et je serai content. Pardonnez-moi mes défauts, ils ne viennent que de la pratique des affaires. Le cœur est bon, et je me jetterai dans la scorpe, plutôt que de ne pas rendre ma femme heureuse. Voilà qui est bien, cousin, dit Marguerite. Mais ma sœur dépend d'elle et de notre père. Je sais cela, ma chère cousine, dit le notaire. Mais vous êtes la mère de toute la famille, et je n'ai rien plus à cœur que de vous rendre juge du mien. Cette façon de parler peint assez bien l'esprit de l'honnête notaire. Plus tard, Pierre Quint devint célèbre par sa réponse au commandant du camp de Saint-Omer, qui l'avait prié d'assister à une fête militaire, et qui fut ainsi conçue. Monsieur Pierre Quint Claës de Molina-Nouraud, maire de la ville de Douai, chevalier de la Légion d'honneur, aura celui de se rendre, etc. Marguerite accepta l'assistance du notaire, mais seulement dans tout ce qui concernait sa profession, afin de ne compromettre en rien ni sa dignité de femme, ni l'avenir de sa sœur, ni les déterminations de son père. Ce jour même, elle confia sa sœur à la garde de Josette et de Martha, qui se vouèrent corps et âme à leur jeune maîtresse, en secondant les plans d'économie. Marguerite partit aussitôt pour Vény, où elle commença ses opérations qui furent savamment dirigées par Pierre Quint. Le dévouement s'était chiffré dans l'esprit du notaire comme une excellente spéculation. Ses soins, ses peines furent alors en quelque sorte une mise de fonds qu'il ne voulut point épargner. D'abord, il tenta d'éviter à Marguerite la peine de faire défricher et de labourer les terres destinées aux fermes. Il avisa trois jeunes fils de fermiers riches qui désiraient s'établir. Il les séduisit par la perspective que leur offrait la richesse de ces terrains et réussit à leur faire prendre à bail les trois fermes qui allaient être construites. Moyennant l'abandon du prix de la ferme pendant 3 ans, les fermiers s'engagèrent à en donner 10 000 francs de loyer à la 4e année, 12 000 à la 6e et 15 000 pendant le reste du bail. À creuser les fossés, faire les plantations et acheter les bestiaux. Pendant que les fermes se bâtirent, les fermiers vinrent défricher leurs terres. 4 ans après le départ de Balthazar, Marguerite avait déjà presque rétabli la fortune de son frère et de sa sœur. 200 000 francs suffirent à payer toutes les constructions. Ni les secours, ni les conseils ne manquèrent à cette courageuse fille, dont la conduite excitait l'admiration de la ville. Marguerite surveilla ses bâtisses, l'exécution de ses marchés et de ses baux avec ce bon sens, cette activité, cette constance que savent déployer les femmes quand elles sont animées par un grand sentiment. Dès la 5e année, elle put consacrer 30 000 francs de revenus que donnèrent les fermes, les rentes de son frère et le produit des biens paternels, à l'acquittement des capitaux hypothéqués et à la réparation des dommages que la passion de Balthazar avait fait dans sa maison. L'amortissement devait donc aller rapidement par la décroissance des intérêts. Emmanuel de Solis offrit d'ailleurs à Marguerite les 100 000 francs qui lui restaient sur la succession de son oncle et qu'elle n'avait pas employés, en y joignant 20 000 francs de ses économies, en sorte que, dès la 3e année de sa gestion, elle put acquitter une assez forte somme de dettes. Cette vie de courage, de privations et de dévouement ne se démentit point durant 5 années. Mais tout fut d'ailleurs succès et réussite, sous l'administration et l'influence de Marguerite. Devenu ingénieur des ponts et chaussées, Gabriel, aidé par son grand-oncle, fit une rapide fortune dans l'entreprise d'un canal qu'il construisit, et supplèrent à sa cousine Mademoiselle Coninx, que son père adorait, et l'une des plus riches héritières des deux Flandres. En 1824, les biens de Claës se trouvèrent libres, et la maison de la rue de Paris avait réparé ses pertes. Pierre Quint demanda positivement la main de Félicie à Balthazar, de même que M. de Solis sollicita celle de Marguerite. Au commencement du mois de janvier 1825, Marguerite et M. Coninx partirent pour aller chercher le père exilé, de qui chacun désirait vivement le retour, et qui donna sa démission afin de rester au milieu de sa famille, dont le bonheur allait recevoir sa sanction. En l'absence de Marguerite, qui souvent avait exprimé le regret de ne pouvoir remplir les cadres vides de la galerie et des appartements de réception, pour le jour où son père reprendrait sa maison, Pierre Quint et M. de Solis complotèrent avec Félicie de préparer à Marguerite une surprise qui ferait participer en quelque sorte la sœur cadette à la restauration de la maison Claës. Tous deux avaient acheté à Félicie plusieurs beaux tableaux qu'ils lui offrirent pour décorer la galerie. M. Coninx avait eu la même idée. Voulant témoigner à Marguerite la satisfaction que lui causait sa noble conduite et son dévouement à remplir le mandat que lui avait légué sa mère, il avait pris des mesures pour qu'on apportât 50 de ses plus belles toiles et quelques-unes de celles que Balthazar avait jadis vendues. en sorte que la galerie Claës fut entièrement remeublée. Marguerite était déjà venue plusieurs fois voir son père, accompagnée de sa sœur, ou de Jean. Chaque fois, elle l'avait trouvé progressivement plus changé. Mais depuis sa dernière visite, la vieillesse s'était manifestée chez Balthazar par d'effrayants symptômes, à la gravité desquels contribuait sans doute la parcimonie avec laquelle il vivait, afin de pouvoir employer la plus grande partie de ses appointements à faire des expériences qui trompaient toujours son espoir. Quoiqu'il ne fût âgé que de 65 ans, il avait l'apparence d'un octogénaire. Ses yeux s'étaient profondément enfoncés dans leurs orbites. Ses sourcils avaient blanchi. Quelques cheveux lui garnissaient à peine la nuque. Il laissait croître sa barbe, qu'il coupait avec des ciseaux quand elle le gênait. Il était courbé comme un vieux vigneron. Puis le désordre de ses vêtements avait repris un caractère de misère que la décrépitude rendait hideux. Quoiqu'une pensée forte animât ce grand visage, dont les traits ne se voyaient plus sous les rides, la fixité du regard, un air désespéré, une constante inquiétude, y gravaient les diagnostics de la démence, ou plutôt de toutes les démences ensemble. Tantôt il y apparaissait un espoir, qui donnait à Balthazar l'expression du monomane, tantôt l'impatience de ne pas deviner un secret, qui se présentait à lui comme un feu follet, y mettait les symptômes de la fureur, puis tout à coup, un rire éclatant trahissait la folie. Enfin, la plupart du temps, l'abattement le plus complet résumait toutes les nuances de sa passion, par la froide mélancolie de l'idiot. Quelques fugaces et imperceptibles que fussent ses expressions pour des étrangers, elles étaient malheureusement trop sensibles pour ceux qui connaissaient un Claës sublime de bonté, grand par le cœur, beau de visage, et duquel il n'existait que de rares vestiges. Vieilli, lassé comme son maître par de constants travaux, le muletinier n'avait pas eu à subir, comme lui, les fatigues de la pensée. Aussi sa physionomie offrait-elle un singulier mélange d'inquiétude et d'admiration pour son maître, auquel il était facile de se méprendre. Quoiqu'il écoutât sa moindre parole avec respect, qu'il suivît ses moindres mouvements avec une sorte de tendresse, il avait soin du savant comme une mère a soin d'un enfant. Souvent, il pouvait avoir l'air de le protéger, parce qu'il le protégeait véritablement, dans les vulgaires nécessités de la vie, auxquelles Balthazar ne pensait jamais. Ces deux vieillards enveloppés par une idée, confiants dans la réalité de leur espoir, agités par le même souffle, l'un représentant l'enveloppe et l'autre l'âme de leur existence commune, formaient un spectacle à la fois horrible et attendrissant. Lorsque Marguerite et M. Coninx arrivèrent, ils trouvèrent Claës établi dans une auberge. Son successeur ne s'était pas fait attendre et avait pris possession de la place. À travers les préoccupations de la science, un désir de revoir sa patrie, sa maison, sa famille agitait Balthazar. La lettre de sa fille lui avait annoncé des événements heureux. Il songeait à couronner sa carrière par une série d'expériences qui devait le mener enfin à la découverte de son problème. Il attendait donc Marguerite avec une excessive impatience. La jeune fille se jeta dans les bras de son père en pleurant de joie. Cette fois, elle venait chercher la récompense d'une vie douloureuse et le pardon de sa gloire domestique. Elle se sentait criminelle, à la manière des grands hommes qui violent les libertés pour sauver la patrie. Mais en contemplant son père, elle frémit en reconnaissant les changements qui, depuis sa dernière visite, s'étaient opérés en lui. Coninx se partagea le secret effroi de sa nièce et insista pour emmener au plus vite son cousin à Douai, où l'influence de la patrie pouvait le rendre à la raison, à la santé, en le rendant à la vie heureuse du foyer domestique. Après les premières effusions de cœur, qui furent plus vives de la part de Balthazar que Marguerite ne le croyait, il eut pour elle des attentions singulières. Il témoigna le regret de la recevoir dans une mauvaise chambre d'auberge. Il s'informa de ses goûts, il lui demanda ce qu'elle voulait pour ses repas, avec les soins empressés d'un amant. Il eut enfin les manières d'un coupable qui veut s'assurer de son juge. Marguerite connaissait si bien son père qu'elle devina le motif de cette tendresse. En supposant qu'il pouvait avoir en ville quelques dettes desquelles il voulait s'acquitter avant son départ. Elle observa pendant quelque temps son père, et vit alors le cœur humain à nu. Balthazar s'était rapetissé. Le sentiment de son abaissement, l'isolement dans lequel le mettait la science, l'avait rendu timide et enfant dans toutes les questions étrangères à ses occupations favorites. Sa fille aînée lui imposait le souvenir de son dévouement passé, de la force qu'elle avait déployée, la conscience du pouvoir qu'il lui avait laissé prendre, la fortune dont elle disposait, et les sentiments indéfinissables qui s'étaient emparés de lui, depuis le jour où il avait abdiqué sa paternité déjà compromise, la lui avait sans doute grandi de jour en jour.